sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, vous êtes à l'antenne de Canal M. Lundi le 19 juin, il me semble que hier encore on était en janvier ou il y a deux jours on était en septembre. Alors déjà la saison se termine aujourd'hui, ce sera la programmation d'été à partir de la semaine prochaine. On se reverra ou on se reparlera d'une façon ou d'une autre en septembre. Mais aujourd'hui, c'est pas terminé, on va parler de toutes sortes de choses, on va parler entre autres de l'été. Il sera question des activités possibles, le guide de plein air accessible. On en parle avec Isabelle Ducharme de Kiroule. On va faire un tour dans la région de Valleyfield. On parle de Mme Josée Saint-Onge, qui est directrice générale de l'organisme Le Moulin de la Source, qui fête ses 33 ans cette année. Et c'est un organisme qui gagne à être connu. L'été, c'est important, mais c'est aussi important de bien s'y sentir et la première moitié de notre émission est consacrée au bien-être et à la santé mentale. J'aurai le plaisir de recevoir Mme Ariane Arpin-Delorme, journaliste conférencière et autrice du livre « Tenir debout ». C'est un livre qui vient tout juste de sortir, on en parle avec Mme Arpin-Delorme. Parlant de vacances et parlant de bien-être, on fusionne les deux et c'est un peu la chronique de notre spécialiste du bien-être, Julie Châtelain, qui est avec nous dans deux petites secondes. Et à 13h, on n'oublie pas, il y aura la revue de presse. Julie Châtelain, bonjour, comment ça va?
Bonjour François, ça va bien toi?
Ça va bien. Ben oui, on parle à la fois de plein air, d'activités estivales avec notre invité tout à l'heure. Il sera question de santé mentale. Puis là, tu nous arrives avec un peu les deux à la fois.
Exactement. Parce que vu que c'est la dernière chronique, après ça, c'est la programmation d'été, mais en fait, beaucoup de personnes se retrouvent en vacances. Les enfants ont terminé l'école. Il y en a plusieurs qui prennent des vacances. Et des fois, on dirait que vacances, c'est pas tout le monde qui est nécessairement en paix avec ce concept-là. Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler, parce que des fois, c'est qu'on travaille, on travaille, on travaille, et là, tout d'un coup, vacances, qu'est-ce qu'on fait? Mais des fois, on se retrouve aussi en mode vacances, quasiment travail, là.
Oui. Bien, des fois, on veut comme meubler notre temps. On a toutes sortes de projets, puis on ressort des vacances, puis on se sent pas le diable mieux.
Ben non, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais comme envie d'amener cette espèce d'équilibre-là aussi, qui fait vraiment un lien aussi avec la santé mentale, bien évidemment, là, parce que moi, tout ça se rejoint tout le temps. Là. En fait, j'ai intitulé la chronique « Les 4 R » et je me suis dit, en plus, c'est une technique d'impact, c'est super facile pour les gens de retenir ça.
Les 4 R, R pas comme… R de restauration, mais R comme la lettre R.
Comme la lettre R, donc des mots qui commencent par la lettre R.
Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pendant nos vacances?
Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pendant nos vacances? Ben, on veut se reposer. En fait, il y a comme trois R qui sont pas mal ceux qui vont être les plus faciles là, pour les gens d'aller chercher. Là. Il y a le repos, la récréation, et les relations.
D'accord.
Bon, ce que j'entends par repos, c'est vraiment physiquement, moi je vais vraiment dire comme une absence de mouvement. C'est une immobilité, un arrêt, une halte, détente, pause, un répit. C'est vraiment, on n'est pas en train de penser à notre prochaine activité. On n'est pas là-dedans. Là.
On est dans la lune. Puis ça fait du bien d'y être.
On est dans la lune, exactement. Ouais. On contemple. On est vraiment dans ce repos-là. Ensuite, la récréation. Mais ça, la récréation, bien, c'est drôle parce que, tu sais, il y en a qui vont dire une récréation, c'est un repos, oui, mais différemment.
Bien, c'est parce actif. Là, c'est actif.
Oui, c'est ça. Mais le fait d'être dans une activité, de bouger, d'aller prendre un moment où est-ce qu'on fait comme « Ah ouais, je m'en vais m'amuser, jouer, me divertir. » Mais pour certaines personnes, c'est un repos aussi, là, parce qu'ils vont amener une détente dans le corps qui fait aussi beaucoup de bien.
Ça peut aussi être une récréation, je dirais, créative, parce qu'il y a des gens, ça va vouloir dire peindre ou dessiner ou faire de la musique.
Oui, parce que dans le fond, c'est du moment que c'est une activité qui est destinée à pas penser, là, tu sais, on décroche du quotidien, on se distrait, on s'amuse, tu sais, le concept.
On se fait plaisir là, aussi, c'est ça.
On se fait plaisir.
On fait quelque chose qu'on aime faire et ça peut être de la musique, ça peut être jouer au boccia, ça peut être toutes sortes de choses.
Un jeu de société, c'est ça, parce que dans le fond, si pour moi, faire de la musique, ça m'amène à un état de plaisir immense, ben c'est parfait. Parce que l'autre personne, des fois, « Oh mon Dieu, hey, là, il faut que je pratique telle activité, ça ne me
tente
pas. »
Ça, c'est sûr qu'on n'est pas là pour faire recréer une contrainte. Si on se dit « Je vais apprendre une nouvelle langue parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est une chose.
Mm-hmm. »
Mais c'est pas un cours avec un examen, là.
Non, c'est ça, exactement. Ensuite, les relations... Bien, les relations dans le fond, c'est toutes les relations, tous les liens qui existent entre les personnes. Ça peut être autant des gens qu'on fréquente régulièrement, qu'on va jaser. Ça peut être autant conjoints, les enfants, la famille, les amitiés, les implications dans différents groupes de bénévolat, des activités, des groupes, des fois qu'on peut retrouver des groupes de marche, des collègues de travail, juste le voisinage, juste être en train de passer ta tondeuse, puis tu jases avec ton voisin. Toutes ces petites relations-là là, qu'on va avoir, là, ils vont venir teinter, puis ils vont venir aider au niveau de notre bien-être, évidemment.
Oui, parce que c'est souvent ces relations-là, il y en a qu'on va avoir de toute manière, peut-être pendant l'année. Pendant l'hiver, ben on ne voit pas notre voisin qui passe la tondeuse. Mais aussi, il y a la distance, il y a le manque de disponibilité des gens. Alors, souvent, l'été, c'est le moment de revoir les amis ou la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou pas assez.
Mm.
Et ça, c'est important pour se retrouver soi-même.
Exactement. Fait que dans le fond, c'est de dire que, OK, bon, là, je planifie mes vacances. Fait que comme je dis, dépendamment de chaque personne, c'est pas le même temps de vacances qu'ils vont avoir. C'est de dire que dans ce temps-là, eh bien, on doit retrouver le repos, la récréation, les relations.
Et puis, il faut prévoir donc d'avoir des. Faut gentiment avoir des plages horaires dans notre vie. Hein, sans qu'on ait l'impression qu'on s'impose des choses qui ne nous plaisent pas. Mais il faut. Parce qu'on ne veut pas que se reposer, on ne veut pas que d'être tout le temps au barbecue là, avec les amis.
Non,
puis on ne veut pas passer tout l'été à jouer aux échecs dans le parc. On veut faire un peu des trois. Mais ton quatrième R, qu'est-ce que c'est?
Ben c'est ça, c'est parce que dans le fond, moi ce que je voulais dire, c'est que ces trois R-là, c'est vraiment un équilibre à aller chercher, de faire les trois en même temps. Mais après ça, je me suis dit, ouais, OK, mais il n'y a pas que ça.
Ouais.
Moi, je trouve que l'été, ça peut vraiment être un bon moment, comme on amène le repos, la récréation, les relations, donc de décrocher du quotidien. Ben l'élément que je juge qui est probablement un des plus importants dans le monde dans lequel on vit en ce moment, qui est vraiment d'aller chercher un équilibre personnel, mais c'est d'aller nourrir la paix intérieure, la joie intérieure. Et pour moi, l'autre R, c'est au niveau de la retraite.
Et c'est pas la retraite parce que je touche une pension, là. C'est la retraite dans le sens où je me retire du monde.
Ouais, c'est ça. Je me retire complètement. Donc là, c'est vraiment, je mets à mon horaire une sorte de pèlerinage, un moment où est-ce que je vais aller me centrer, que ce soit dans le silence, la solitude. Ça peut être dans une retraite avec d'autres personnes aussi, mais qu'il va y avoir des moments où est-ce que je suis toute seule avec moi-même, pas de technologie. Tu sais, on sort, là,
C'est une sorte de jeûne mental.
Ouais.
Hein, parce qu'à ce moment-là, au lieu de penser à des choses quotidiennes, on fait l'effort d'être avec soi-même. Puis souvent, ça se peut qu'il y ait des émotions qui remontent à la surface.
Ben oui.
Puis c'est souvent là où on va être capable de voir plus clair dans les problèmes qui sont les nôtres. Pas les problèmes genre ma laveuse a lâché, là, mais les problèmes pourquoi dans mes relations ces choses-là surviennent.
Ou, c'est ça.
Pourquoi est-ce que j'ai peur de relever ce défi-là? Qu'est-ce qui m'arrête ou qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est comme une sorte de longue méditation.
Oui, en fait, oui. Puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, moi, c'est difficile de partir 4 jours dans le bois tout seul. Je dis, OK, c'est correct, ça peut que ce soit difficile. Mais de mettre à l'horaire, par contre, des moments où est-ce qu'on va vraiment décrocher complètement de tout ce qui est à l'extérieur. Moi, c'est ce bout-là que je trouve que du moment qu'on dit, bon, j'arrive pas à faire une séparation, quand, mettons, je m'en vais marcher pendant 2 heures de temps faire une randonnée,
oui.
Mais qu'en même temps, j'ai mon téléphone.
Ah ouais, ben, c'est ça, je me promène, mais je suis jamais tout seul.
Ouais.
Ah, il faut vraiment fermer le téléphone et il faut trouver une façon de rentrer en soi, puis pour ça, ben, il faut comme fermer l'extérieur. Et je pense que c'est un excellent exercice. Ça va beaucoup nous aider de placer le repos, la récréation, les relations. OK, on peut comprendre ça, mais de faire l'effort de se retrouver soi-même, ça demande un peu plus de planification. Puis d'être bien sûr que les gens autour de nous comprennent ce qu'on veut faire aussi.
Bien, ça, c'est certain. Mais tu sais, dans le fond, si on fait juste ça. Ça fait juste penser au flot de nos pensées, tout ça. Là.
Oui.
Mais qu'est-ce qui va aider dans le sens, c'est quand vraiment là, je vais ralentir.
Il faut. Tu as raison, Julie.
Oui, c'est ça.
Donc, ça me fait penser que on regarde la rivière couler, on n'a pas besoin de mettre sa main dedans. Voilà.
C'est ça.
Ben, on va se laisser là-dessus, Julie, puis je te souhaite un super bel été. On va se reparler en septembre, c'est sûr. Puis
absolument.
De l'autre côté de l'été, ben, on va être ressourcé parce qu'on va s'être reposé, récréé.
Exact.
On va travailler sur nos relations, puis on va avoir pris du temps pour nous-mêmes.
Oui, exactement. Ben, toi aussi, des très belles vacances, François.
OK, bye.
OK, bye-bye.
juste après ça. Ah, Work Song, Cannonball Adderley. Moi, ça me rappelle d'excellents souvenirs. C'est de la musique que j'écoutais quand j'étais en train d'étudier dans ma jeunesse. Voilà, ça me stimulait. Il y a des gens qui écoutent de la musique, d'autres non. Moi, c'est celle-là que j'écoutais. On a le plaisir d'avoir en notre compagnie, et je trouve ça important parce que vous êtes avec nous en studio, Mme Ariane Arpin-Delorme. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une journaliste, conférencière, blogueuse. Vous avez souvent parlé de voyage dans votre carrière, mais cette fois-ci, c'est tout un autre sujet auquel vous vous êtes attelée. On parle de santé mentale. C'est gros, ça.
Oui, mais mon Dieu, important.
Oui, oui, tout à fait. Et vous venez tout juste de publier un livre qui est sorti il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle « Tenir debout ». Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé mentale et pourquoi faire un livre maintenant?
Comme tout ouvrage, tout bouquin, je pense que c'est un travail sur plusieurs années. Mais disons que j'avais même commencé à interviewer des gens en 2020. Comme journaliste, justement, on essaie de donner la voix hein, aux gens qui ont une histoire importante à raconter. Mais finalement, ça a été la dernière année et demie que j'ai travaillé là, à interviewer au final 60 personnes, oui. Surtout 12 personnes qui racontent leur parcours et leur vie aux côtés d'un trouble de santé mentale. Mais qu'est-ce qui m'a amenée à ça, à côté de l'importance, évidemment, on en parle plus depuis la pandémie.
C'est juste, oui.
Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et de jugement. Donc, les gens ont besoin de comprendre davantage pour justement changer peut-être leur perspective ou s'ils ont un proche, en fait, atteint d'un trouble de santé mentale. Mais je me suis aussi inspirée de mon histoire personnelle là, pour vivre avec un trouble dépressif depuis l'adolescence. Et je ne raconte pas mon histoire dans le livre, mais c'est sûr que ça a été influencé. J'ai commencé à en parler plus sous le chapeau d'une entrepreneur, en fait, durant la pandémie. On sait que les entrepreneurs vivent certains défis hein, au niveau de leur santé mentale.
Beaucoup de stress, puis exact.
Exact.
On ne peut pas être au fond de la caisse tout le temps, là, ça... Ça ne marche pas de même, le corps humain.
On prend des risques, disons, différents. Tout est d'une question de choix, mais j'ai commencé à en parler comme ça pendant la pandémie. Les gens se sont plus confiés à moi. Et je me suis dit que c'était important d'essayer, en fait, de faire une différence. Donc, d'inspirer les gens, d'informer les gens, d'aller chercher vraiment des intervenants qui ont travaillé en santé mentale pas mal pendant toute leur vie. Et surtout de donner des pistes et des outils. Parce que quand on sait qu'on est, exemple, on reçoit un diagnostic ou non, là, on peut être rassuré, mais qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien pour se sentir mieux? Donc, pour moi, c'est important, le livre Tenir debout, de donner des outils, des pistes pour se sentir mieux avec le stress, l'anxiété, etc.
Je vais vous dire, ce que je trouve remarquable de votre livre, là, c'est à la fois d'être si complet, parce qu'on parle de 480 pages ou presque.
Oui. Alors,
vous parlez de beaucoup de problématiques de santé mentale et vous parlez aussi de beaucoup de solutions à la fois. Vous faites ça par les 12 interviews que vous avez faites avec des gens qui parlent de leur propre situation de santé mentale. Mais il y a aussi 48 intervenants qui ont donné des pistes de solutions ou des types de thérapies ou des approches qui peuvent être utilisées dans différents cas. C'est quasiment une encyclopédie, mais c'est pas ennuyeux. C'est comme ça que je vous dirais ça. C'est complet comme une encyclopédie. On y retrouve presque toutes les problématiques. Puis en même temps, ben c'est pas ennuyeux à lire parce que c'est humain. On est proche des gens qui se racontent. Mm-hmm. Puis les intervenants que vous interviewez, ils sont habitués de travailler avec des gens aussi. C'est pas académique, c'est pas théorique.
Non, c'est l'humain, ce qu'on dit, c'est l'humain avant le diagnostic. Et c'est important aussi pour moi de parler... de toutes les approches, mais aussi de parler évidemment des limites de chaque approche. Hein, qu'on parle, le coaching qui est très présent aujourd'hui, il faut en parler, mais qui n'est pas évidemment de la psychologie, dans la psychothérapie, pardon. Donc, quelles sont les limites, mais comment choisir, comment... Et je pense que c'est une approche globale de toute façon qui fonctionne hein, quand on a besoin de soins. C'est une approche globale, c'est pas seulement
il y a pas une
thérapie.
Clé, c'est ça.
Je ne pense pas, non.
Ça marche pas comme un mot de tête puis un comprimé. C'est un mot de d'armes, puis c'est plus compliqué à,
oui,
à soigner.
Oui, puis c'est bon, c'est ça, c'est un travail d'une vie, mais il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire sans s'auto-diagnostiquer, beaucoup de petites choses qu'on peut faire pour aider sa santé mentale. Donc, pour moi, c'est important de planter des graines comme ça pour les gens qui, soit sont pas prêts là, en psychothérapie, soit qui n'ont pas accès. Hein. Désolée, mais c'est la, évidemment, c'est la réalité.
Oui.
Donc, comment on peut être mieux, mais surtout être inspiré et réaliser. Il y a des personnalités connues dans le livre qu'on a aussi, que j'ai interviewé, donc Steve Veilloux de Caïn, Kelly Despaux, qui est actrice, Caroline Côté, donc athlète. Des gens qui peuvent réussir, évidemment, des petites ou des grandes victoires, mais malgré leur trouble de santé mentale, diagnostiqué ou non.
Parce que, en fait, ça permet de... la première affirmation, c'est que vous n'êtes pas seul.
Mm-hmm.
Parce que c'est souvent le problème, la première limitation, la première barrière, on a l'impression quand ça va pas bien, qu'on est les seuls à qui ça arrive.
Complètement.
Puis on peut pas en parler à personne parce que personne va nous comprendre.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'on s'enfonce souvent. Puis les choses vont pas aller mieux d'elles-mêmes, malheureusement.
Non.
Dans ce secteur-là, je regarde votre... La table des matières seulement, c'est incroyable. Troubles, panique, anxiété de la performance. On parle de santé mentale chez les jeunes, chez les enfants, perception des troubles de santé mentale qui vont se refléter dans la vie sexuelle, dans l'insomnie, la perception de la douance, parce que ça, parfois aussi, ça va créer... C'est pas parce qu'on a des grandes qualités qu'on va nécessairement être heureux avec, ou que notre entourage va nous laisser vivre,
mm-hmm.
mais le discours intérieur, puis ainsi de suite. On parle de troubles de schizoaffectifs, de la psychiatrie, puis en même temps, l'agoraphobie, la peur de performer en public, tout ça, puis en même temps, c'est comme en dessous de ça, c'est comme plein de douceur, parce que vous parlez aussi des interventions, puis d'exercices physiques, puis
mm-hmm.
de la relation d'aide, et c'est ça qui est, je dirais, qui est remarquable de votre livre, c'est qu'on fait les deux en même temps. Hein, on ne fait pas juste se diagnostiquer, on trouve une façon d'espérer d'être soigné. Les gens que vous avez rencontrés, comment ils ont accepté de s'ouvrir comme ça? Ça n'a pas dû être facile.
Effectivement, j'ai peut-être communiqué avec une centaine de personnes. Est-ce que je me suis rendu compte? Alors, tout le monde était touché par la santé mentale, de près ou de loin, mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment, surtout pour les 12 personnes là, qui témoignent plus en profondeur, il fallait vraiment que le timing là, soit là au niveau de ne pas en avoir parlé trop peut-être dans le passé pour ne pas avoir peur peut-être de retomber et aussi être prêt d'accepter les possibles conséquences sur sa carrière ou sur la famille. Donc, c'était vraiment pour eux, je pense qu'ils étaient rendus là. Et ça a été, pour reprendre leur témoignage, là, leur dire, ça a été très thérapeutique pour eux. Ça a été thérapeutique pour moi, en passant.
Oui,
je me suis sentie très privilégiée. J'ai appris beaucoup de choses. Mais ça a été thérapeutique pour eux d'en parler et d'espérer inspirer les gens, en fait, faire une différence. C'est pour ça hein, qu'on a tous, que j'ai créé Tenir debout. Et même avec la démarche photographique qu'il faut mentionner, là, moi, je le trouve très beau, le livre, et je voulais que ça soit un objet.
C'est vrai, tout à fait. Il est agréable à feuilleter.
Beau, graphique, qu'on peut retourner, mais juste de faire la démarche avec un photographe professionnel, c'était aussi pour démontrer. Donc là, je ne vis plus dans la honte. J'accepte. Là, ça a été pour eux, ça a été quand même un défi, mais j'accepte de dire, ben, comme n'importe quelle autre maladie physique, j'accepte d'en parler et puis de progresser.
Comme vous dites, il fallait que ce soit le bon moment pour chacune de ces 12 personnes-là.
Vraiment, vraiment.
Parce que si elles ne sont pas prêtes, elles ne le sont pas.
C'est correct.
Ça fait partie de la démarche. Parce qu'il y a l'acceptation, puis mm-hmm. il y a le fait de nommer, puis de mettre des mots sur ce qu'on ressent, puis d'en parler. Parce que, évidemment, la santé mentale, on l'a dit au tout début, c'est difficile. Hein, c'est insaisissable. C'est pas comme une fracture d'une jambe. Ça, c'est facile à comprendre, à voir sur la radiographie puis à mettre un plat dessus.
Mm-hmm.
La santé mentale, c'est tout le contraire.
Il y a beaucoup d'éléments qui affectent, que ce soit l'environnement, que ce soit l'enfance, que ce soit la génétique dans certains troubles.
Oui, c'est vrai. Tout à fait juste. Puis il n'y a pas un facteur, il y en a tout le temps plusieurs.
Ouais.
À qui s'adresse ce livre-là? Qui devrait le feuilleter, le lire?
Moi, je pense qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai des adolescents, en fait, qui le feuilletent en ce moment, qui le lisent et qui m'en reparlent. J'ai des parents aussi qui ont du mal à comprendre.
Ils sont démunis.
C'est exact. Et qui veulent trouver d'autres façons d'aborder les choses. Même des grands-parents, en fait, qui m'en ont parlé. Me dire, on aimerait ça aborder certains sujets avec nos petits-enfants qui vivent Et donc, je pense que c'est un livre qui s'adresse presque à tout le monde, en fait.
Exact. C'est sûr que peut-être quelqu'un ne lira pas les 476 pages, mais il va y trouver ce dont il ou elle a besoin. Pour un proche. Et c'est ça qui compte. Ça s'appelle « Tenir debout ». Ça a été publié, je pense, aux éditions Béliveau, si je ne me trompe, de Ariane Arpin-Delorme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est vraiment chic. Et puis, on se retrouve après la pause. On va parler de... on sort. On va s'aérer l'esprit. On va parler de plein air.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause. Bien oui, c'est l'été, une journée magnifique aujourd'hui de fait. Et quand il fait beau, même quand il fait un peu moins beau, c'est important de profiter de toutes les activités, de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Mais quand on a des difficultés d'accessibilité, parfois dans bien des endroits, ça fait du bien de savoir où aller, où l'accessibilité est fait partie, je dirais, de l'accueil de l'endroit, que ce soit au centre du Québec ou en Gaspésie, dans la région de Montréal, en Mauricie, ainsi de suite. Et chaque année, pour être capable de s'y retrouver, c'est maintenant un classique. Kéroul nous offre son guide de plein air accessible à chaque année. C'est la 6e édition. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration pour Kéroul et que je connais de mille et une façons, dans toutes sortes de circonstances. Bonjour Isabelle, comment ça va?
Ça va très bien. Effectivement, on a beaucoup de passions similaires. On se retrouve à beaucoup d'endroits sur les mêmes...
Dans les mêmes activités, oui.
Les mêmes tables de discussion, donc c'est un plaisir.
Moi, ça ne m'a pas donné encore de te croiser au Centre Bell à un match de hockey, mais je pense que c'est un autre truc qu'on a en commun.
Jour, il va falloir se dire...
On va manger avant le hockey.
Oui,
tout à fait. Bon, de l'hiver, parlons de l'été.
Oui.
Qui roule à chaque année, maintenant c'est la 6e édition. Comment est-ce que le guide de plein air cette année, ça l'a encore grossi? Il y a encore plus d'infos.
En fait, moi, ce que je veux juste faire une petite correction, c'est le guide Le Québec pour tous.
Oui.
Donc, c'est un guide qui est quand même présente des hébergements, des activités pour l'année.
Oui.
Mais il y a, bien sûr, une section plein air dans ce guide-là.
Plus estival.
Donc, ça sort toujours comme au printemps pour justement donner envie de faire des activités. Si on les a pas déjà... Si ce n'est pas pour l'été, ça peut être aussi pour planifier maintenant, pour l'hiver, pour plus tard.
Oui, c'est important.
Mais on trouve ça important de le sortir au printemps, justement pour donner des idées aux gens de sortie pendant l'été, parce qu'il en manque pas, là. Peu importe ce qu'on a envie de faire, il existe à quelque part une version accessible de cette activité-là, de ce genre de lieu qui nous attire pendant l'été.
Parce que quand on parle à Kéroul, quand on parle de Kéroul, la première chose, moi qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le plein air, puis les parcs. Mais dans le guide, vous parlez de d'autres aspects ludiques aussi.
Absolument. On va parler autant de musées, on va parler de... d'ailleurs, le guide, il n'est qu'un résumé du site web Le Québec pour tous.
Oui.
Et là, on va y trouver des thématiques, autant si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire autochtone, si vous avez envie de faire des sorties aussi plus en amoureux, des sorties en famille. Vous avez une passion pour l'agrotourisme. Donc, on a vraiment une panoplie là, de possibilités de sorties et d'activités. Puis tout ça, bien, c'est accompagné, bien sûr, d'hébergement dans les différentes régions du Québec. Puis encore là, on va dans la variété, là. On a autant une possibilité de faire du camping, d'aller dans des petites auberges, dans des bed and breakfast. On a les chalets accessibles, bien sûr. Et il y a de plus en plus de types d'hébergement qui se développent dans la société en général, et ils en font des versions accessibles. Ça a commencé par le prêt à camper.
Oui.
C'est une tente déjà toute installée.
Oui, ça s'est développé pas mal au cours des 4-5 dernières années.
Oui. Puis les premières ont été au Parc national d'Oka. Maintenant, on en voit un peu plus. Maintenant, il y a aussi les iPods qui sont un peu en forme arrondie, mais qui présentent quand même là, toute les services qu'on peut avoir besoin là, en hébergement, mais qui sont un peu plus isolés, un peu plus dans des endroits, on se trouve pas en plein centre-ville. Puis maintenant, on a même un tipi qu'on peut aller, qui a été conçu pour être accessible. Donc souvent, ces mêmes chalets-là, ces mêmes endroits-là qui sont différents d'un classique hôtel, ben vont se retrouver, par exemple, s'il y a 10 iPods qui sont sur place, ben ils vont en avoir un, deux ou trois qui sont adaptés.
Parce que oui, et ça, on ne retrouvait pas ça au tout. Il y a 7-8 ans, c'était moins la mode. Mais maintenant, je remarque en parcourant le guide, là, Québec pour tous, on parle du prêt-à-camper au camping aventure mégantique.
Oui.
Il peut y avoir jusqu'à 7 personnes. Et en même temps, c'est quand même près de d'autres unités. Alors, si vous voulez y débarquer toute la famille, ça, c'est pas un problème.
Kéroul travaille depuis longtemps pour que l'industrie comprenne qu'on ne veut pas, en tant que personne en situation de handicap, se retrouver juste en personne de situation de handicap. On ne veut pas avoir une porte d'entrée différente. On ne veut pas avoir une expérience à part. On veut être avec le monde. On veut pouvoir, par exemple, dire « Hey, moi, j'ai fait ça il y a quelques années, là. Fêter mon anniversaire, puis louer 3 chalets, puis il y en a un qui est accessible, mais les deux autres qui n'ont pas besoin d'être accessibles parce qu'il y a juste moi dans la famille puis des amis qui sont en fauteuil roulant. » Ben c'est parfait comme ça de pouvoir se retrouver dans des endroits où on se sent partie de la gang, partie de... T'sais, on n'est pas un mille plus loin parce que ben la seule place accessible, le seul chalet accessible, il est loin de tous les autres chalets. Ou tu sais, c'est pas non plus excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est pas one size fits all.
Oui.
T'sais, fait qu'on n'a pas tous besoin de la même grandeur de chambre, la même hauteur de lit, la même
hauteur de comptoir ou les mêmes installations sanitaires, exact.
Exact. Donc de penser à faire autant de la variété que... maintenant, on parle de plus en plus d'inclusion plutôt que d'accessibilité. Donc, c'est d'inclure tout le monde dans une même aventure, dans un même développement. Fait que c'est vers ça que ça tend. Je pense que le programme d'accessibilité, le programme d'accessibilité des établissements touristiques, qui existe maintenant dans sa deuxième édition, a montré aux gens de l'industrie que, maintenant qu'ils ont des fonds pour se rendre accessibles et qu'ils se rendent accessibles, que les gens viennent. T'sais, auparavant, on nous disait, oui, mais là, même si je me rends accessible, comment je sais que je vais avoir des gens? J'en vois jamais. Mais oui,
mais vous n'en voyez pas parce que vous n'êtes pas accessible.
Et voilà. Donc, ça devient un cercle vicieux où on commence.
Oui, la poule ou l'œuf. Oui, voilà.
Voilà.
Mais dans ce cas-là, c'est simple. Vous devenez accessible, les gens arrivent. Hein? Alors, oui. Voilà.
Puis, tu vois, l'outil du Le Québec pour tous, ben, il est bon pour l'industrie parce que l'industrie se rend compte que ça lui donne un outil de promotion. Mais il est bon, donc, pour nous, personnes qui voulons voyager, qui voulons visiter le Québec, faire des activités. Tu sais, ça peut être pour faire des activités dans son propre coin de pays. Tu sais, si je veux faire une activité à Montréal, ben je vais aller voir dans le Québec, sur le site web Le Québec pour tous pour voir si je veux faire une activité, si c'est accessible. Je peux utiliser le même outil si je veux aller en Mauricie ou en Gaspésie, comme tu disais en introduction.
Parce que faut bien comprendre que, ce guide-là qui est en version papier, là, qui s'appelle Le Québec pour tous, comme tu disais, c'est une partie de toute l'information qu'on va retrouver sur le site aussi de Kéroul. Et ça, sur votre site, là, on peut facilement naviguer en cherchant la région qui nous intéresse, trouver les caractéristiques, dans que ce soit l'hébergement, ainsi de suite. Alors, on n'a pas besoin de passer au travers du guide pour chercher, on peut faire une recherche pointue.
Exact. Puis quelqu'un, par exemple, qui aurait une déficience visuelle, une déficience auditive, quelqu'un qui a une déficience motrice, on peut faire des recherches en fonction de nos besoins spécifiques aussi. Et on peut y aller par nos goûts, par nos envies, par « moi, j'ai le goût de faire du plein air, où puis-je en faire au Québec? » Ou « moi, je m'en vais en Mauricie, qu'est-ce que je peux faire en Mauricie? » Ou on peut aussi y aller aussi pointu que dire « à quel endroit je peux aller en Mauricie, qu'il y aura des services pour une personne qui a une déficience visuelle ou auditive? » ou faire sortir tout ce qu'on a pu évaluer au Québec qui aurait de l'accessibilité spécifique avec une personne avec une déficience visuelle ou auditive. Ou sinon, c'est quelqu'un qui a besoin de plus un bain au lieu d'une douche ou d'une douche au lieu d'un bain, bien, on peut cliquer ça, puis là, ça va nous sortir tous les hébergements qui a ce qu'on a besoin. Fait que il y a un côté très, très, je trouve, pratique et complet dans ce qu'on peut chercher. Ça va jusqu'à est-ce qu'il y a du transport adapté dans la région que je veux aller. C'est quand même très, très large, là.
Tout à fait. Et ça continue de s'élargir parce que dans son action qui roule, ben vous continuez à visiter des nouveaux sites. Vous continuez à, je dirais pas, à tester des sites, mais d'une certaine façon, oui.
Hein? Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que enfin, après 40 quelques années, on se bat moins pour convaincre les gens, mais on le fait quand même encore. On fait beaucoup de présence dans les congrès, dans les rencontres d'associations touristiques, etc. Mais on a aussi de plus en plus de gens qui se tournent vers nous.
Ah.
Je dois faire des rénovations. Je veux bâtir un nouvel endroit. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre pour bien faire ça? Fait que c'est... Puis nous, c'était un petit peu au-delà du code de construction. Le code de construction, on le sait, c'est la base. Hein?
C'est simple, mais ça peut ne pas toujours s'appliquer.
C'est pas nécessairement le confort d'utilisation, c'est pas nécessairement la meilleure expérience client. Un autre mot qu'on entend de plus en plus, heureusement, que c'est plus juste un...
C'est pas juste un accommodement, il faut que ce soit plaisant aussi.
Exact. Ouais. Que ça fait une grande différence. Fait que nous, on travaille, puis tu sais, le plein air, ben oui, des fois, on se dit, c'est pas grave, on va y aller, ça va être accessible, mais c'est important de savoir avant de partir, est-ce que c'est un lieu qui va avoir beaucoup de côtes, que je vais avoir de la difficulté à monter avec mon fauteuil manuel? Ou est-ce que c'est un endroit, par exemple, que il y aura pas de délimitation pour me dire, si je me promène avec ma canne blanche, est-ce qu'il y a des délimitations pour me dire si je vais tomber dans un fossé en prenant ce chemin-là? Fait qu'on a beaucoup d'informations, autant en fonction de la signalisation, des services d'accompagnement qui peuvent exister. Moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment un guide qui est très, très pertinent et utile pour bien des facettes, là, pas juste il est beau en plus là pour ceux
qui peuvent l'admirer. Le graphisme est simple, c'est facile de s'y retrouver. Les entêtes sont claires. Puis il y a des jolies photos qui donnent le goût d'y aller aussi. Je partageais le guide avec des gens qui n'ont pas à prime abord qui ne vivent pas des situations d'handicap ou de mobilité, là, mais qui sont simplement intéressés à trouver des beaux endroits puis y aller avec des gens de leur entourage. Puis Ils découvrent, ah, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'il y avait telle chose, ben oui, je n'avais jamais entendu parler. Alors, ça a même, quand on dit Québec pour tous, là, c'est comme tu disais, Isabelle, ce n'est pas juste un Québec qui est pour les gens qui sont en situation d'handicap, là, puis ça, mais c'est en fait, c'est un guide touristique qui est plaisant en lui-même et qui va en s'élargir. C'est bien d'entendre parler que Kéroul demain commence à devenir une référence, hein, puis qu'on va vous voir pour savoir comment rendre le Québec plus accessible.
Alors, oui, puis tu sais, n'oubliez pas aussi que nous, on parle plein air, mais tantôt j'en ai nommé quelques-unes, mais on parle aussi, on a quelques informations sur des activités nautiques, sur des activités sportives.
Culturelles.
N'oubliez pas aussi qu'il y a des activités qui peuvent se faire l'hiver et qui sont accessibles.
Oui, oui. Bien, je ne voulais pas, en intro, parler d'un guide qui était purement estival. C'est tout à fait juste. On peut s'en servir pour aller faire de la randonnée sur la neige l'hiver, glisser ou toutes sortes de choses. Puis, de toute façon, la partie culturelle, patrimoine, hébergement, saveur, gourmandise, dirais-je, mais ça c'est toute l'année.
Oui, exact.
Ben merci beaucoup, Isabelle. On part, là.
Oui, puis gênez-vous pas. Profitez-en. Montrez qu'on est là.
Oui.
Plus on montre qu'on est là, plus l'accessibilité va se développer.
Exactement. Puis quand souvent, il y a des sondages après un séjour ou une activité, puis c'est important de dire, ben comment est-ce que j'ai appris à connaître votre site, votre accueil, parce que je l'ai eu par Kéroul.
Alors, ça serait grandement apprécié.
Oui, tout à fait. On comprend ça. C'est ce qu'il faut faire. Ben merci. Bon été.
Ben merci, toi aussi.
We'll be right back.
les années 70. On est en 1977. L'album Heavy Weather du groupe de jazz fusion Weather Report. On a entendu Birdland. Voilà. Alors, notre collègue M. Tessier a la suite dans les idées car on retrouve Joe Zawinul comme claviériste à la fois sur cette dernière pièce et celle que nous avions entendue plus tôt, Work Song de Cannonball Adderley. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, ce metteur en onde. Voilà. Ceci dit, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Mme Josée Saint-Onge. Bonjour, Mme Saint-Onge.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous-même.
Ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes directrice générale de l'organisme Le Moulin de la Source à Salaberry de Valleyfield. Et votre organisme, bien qu'on pourrait dire modeste, parce que c'est pas une institution hospitalière, ça fait longtemps que vous faites du bien.
Oui, absolument. ça fait 33 ans cette année, mais malheureusement, on devait souligner le 30e en 2020, mais pour les causes qu'on connaît, on a reporté le fait de souligner le 30e. Donc, ça fait 33 ans.
Et c'est bien parce que, en fait, avec tout ce qui est arrivé en 2020 et les années qui ont suivi, beaucoup d'organismes comme le vôtre là, ont eu de la difficulté.
Oui, tout à fait.
Mais vous êtes passé au travers.
Oui.
Comment ça... D'abord, pour placer un peu le décor, d'où ça vient? Comment ça a démarré, le Moulin de la Source?
Le Moulin de la Source a pris naissance ce sont des parents de personnes, d'enfants handicapés qui ont dans leur sous-sol parti, si on veut, un genre de garderie, entre guillemets, pour des enfants handicapés. Donc, puis à partir de là, ça a fait boule de neige. On est sorti du sous-sol, mais moi, j'y étais pas, là. Mais on est sorti du sous-sol pour prendre pignon sur rue. Donc, c'est ça. Donc, c'est un monsieur André Marquis,
oui.
Qui était le papa de... J'oublie son nom, malheureusement, son prénom, là.
D'accord.
Donc, d'une jeune fille qui, malheureusement, est décédée, là.
Ça a commencé comme une entraide de parents qui vivaient des problématiques similaires et qui n'avaient pas de ressources.
Exact. Parce qu'il n'y a pas grand place pour les personnes handicapées physiques. Il y en a un peu plus pour la déficience intellectuelle, mais pour handicap physique, il n'y a pas tant de place que ça.
Pas beaucoup de ressources.
Non.
Et maintenant, c'était il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, votre organisme, vous desservez, vous êtes dans la région de Salaberry de Valleyfield, vous couvrez toute la région?
Donc une partie de Vaudreuil-Soulanges, si vous voulez.
D'accord.
Salaberry et une partie du Haut-Saint-Laurent. Donc, puis on est le seul centre pour personnes en difficulté physique dans les trois MRC de la région.
D'accord. Ben, vous devez avoir beaucoup de demandes, là. Ça doit cogner à votre porte.
Oui, étonnamment, après la pandémie, je me suis retrouvée avec une liste d'attente, ce qui n'était jamais arrivé, et on ne sait pas pourquoi.
C'est parce qu'il y a un besoin.
Oui, clairement qu'il y a un besoin, mais on dirait que le nom du Moulin de la Source a refait surface, a bondi d'un seul coup, j'en ai aucune idée pourquoi. Mais bon, bref, il y a une liste d'attente, effectivement. Oui, on pourrait les faire entrer, mais là où j'ai un petit problème, c'est de recruter des éducatrices spécialisées.
Oui.
C'est très rare.
C'est difficile. En ce moment, combien de personnes êtes-vous, combien de jeunes, d'enfants, êtes-vous capable d'accueillir, de servir comme il faut?
Premièrement, ce n'est plus des enfants parce que ça a un petit peu évolué.
Avec le temps, ben oui, vous avez des adultes maintenant.
Donc, c'est du 18 ans à 80. C'est vraiment des adultes.
OK, je m'excuse.
Non, il n'y a pas de problème. Mais particulièrement, des jeunes quand même, là, entre 20 et 35, il y en a beaucoup.
D'accord.
Pourquoi? Parce que dès qu'ils sortent de l'école à 21 ans, il n'y a plus rien qui existe.
Oui, ça, on est au courant. Là. C'est comme ils tombent en bas d'une falaise à la majorité ou après le parcours scolaire. Là.
C'est bien dit, la falaise.
Oui, c'est vrai.
Oui, non, il n'y a plus rien qui existe pour eux. Donc, nous, on est là comme ressource pour maintenir les acquis de ces jeunes-là et maintenir aussi le social.
L'activité ou l'intervention prend quelle forme? Est-ce que c'est un centre de jour où votre clientèle va... Je pense qu'il y a une soixantaine de personnes là, qui bénéficient de vos services.
Il y a 67 bénéficiaires actuellement. Mais il n'y a personne qui dort ici. Là. C'est vraiment un centre de jour de 8h30 à 16h.
D'accord. Et vous pouvez accueillir tous ces gens-là en même temps. Vous avez la...
Non.
Oui.
Non.
OK. ça prendrait grande plancher, là.
Oui, puis j'ai un problème aussi de recrutement. Oui, exactement. Donc, le 67 personnes est divisé sur 5 jours.
D'accord. Et c'est pas parce que, comme vous dites, le besoin est inexistant. Là, vous pourriez...
On pourrait les heures et les jours, là, oui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est plutôt de trouver les personnes qui ont la vocation puis qui ont la formation pour vous aider. Une partie de votre financement aussi vient du public.
Oui.
Vous avez fait encore une fois, parce que vous faites ça chaque année, je pense, là, vous avez fait un vin et festin au mois de mai.
Exactement. Ça faisait 3 ans qu'on n'en avait pas fait, pour les raisons qu'on connaît. Et le 12 mai dernier avait lieu la soirée vin et festin du Moulin, qu'on appelle. Là.
D'accord.
Donc, c'était la fiesta, honnêtement. C'était une belle soirée, une très belle soirée, thématique brésilien. Alors,
C'était
la fête. C'était la fête.
On peut entendre des maracas, là.
Oui,
voilà. Mais aussi, c'est parce que je pense qu'il y avait des gens qui s'étaient beaucoup dévoués auprès de votre organisme, qui nous ont quittés récemment. Je pense, entre autres, c'est monsieur... Chouanière,
oui,
qui est décédé, qui était vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup dans la région de Salaberry.
Oui, c'est un monument, il n'y a pas d'autre terme pour le décrire, là. C'est un grand homme.
Oui, et là, est-ce qu'il y a une relève de gens qui sont prêts à vous appuyer, qui est en train de naître ou d'apparaître à l'horizon?
C'est quand même difficile. Ben, M. Chouanière, tant qu'à moi, il ne sera jamais remplacé.
Tout à fait remplacé,
copie conforme, là, ça va être difficile. Mais oui, on sent qu'il y a une nouvelle vague qui s'en vient des nouveaux jeunes entrepreneurs, et etc. Là. Mais c'est quand même difficile de... C'est une autre génération. Hein? Alors, je ne sais pas comment le dire, mais ça s'en vient, mais il faut prendre le temps de prendre le temps.
Il faut y arriver. Ben, je vous le souhaite, Mme Saint-Onge, parce que vraiment, dans la région de Salaberry de Valleyfield, ce que vous faites, et c'est le cas de le dire, c'est unique. Puis vous avez de la demande. Alors, on souhaite que vous trouviez à la fois du personnel qualifié pour accroître votre offre de service, puis des mécènes ou des gens qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue pour vous assurer que vous n'auriez pas juste un 33e, mais un 35e, un 40e. Merci d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
Tout à fait. Après la pause, on retrouve Esther Hardy et la revue de presse.
Sans détour avec François Beauregard.
Oui, c'est sans détour et ça achève, voilà. On est à la dernière demi-heure de la dernière émission de la saison et on a parlé de voyage et de plein air. Alors, quand on parle de voyage, on parle de revue de presse avec façon de parler avec notre collègue Esther Hardy. Bonjour Esther.
Bonjour François. Encore un petit tour du monde, hein?
Oui, voilà. et on commence à New York.
Oui, à New York, en fait, c'est un témoignage. Les personnes handicapées doivent se faire entendre de plus en plus fort. C'est ce que dit Nicolas Herd, qui est un militant de l'Arche Canada, donc qui fait partie d'une organisation internationale à but non lucratif œuvrant pour l'inclusion des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Donc, il a participé à la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est un long nom, là.
Oui, mais c'était la 16e conférence organisée par les Nations unies à New York.
À New York, donc c'était du 14 au 16 juin. Et il est allé pour faire un témoignage. Donc, il dit que
Il dit de lui-même, « J'ai vécu une partie de ma vie en étant confrontée à la discrimination. Lorsque j'étais jeune et que je grandissais, j'ai été victime de brimades en raison de mon handicap. » Donc, on le comprend. Mais aujourd'hui, je peux utiliser cette voix, donc qui est fort de ça, celle de l'enfant que j'étais, pour me faire entendre de plus en plus fort. Je peux le crier au sommet, ici, là, à New York, à l'ONU.
Oui, oui, parce que l'édifice de l'ONU, c'est assez haut. Mais il faut comprendre que Nicolas Hearn, là, c'est un acteur canadien. Il est de Toronto. C'est un acteur canadien qui vit avec la trisomie 21. C'est un acteur, un auteur, un activiste LGBTQ qui a fait des films et de la TV depuis plus de 20 ans.
Voilà.
Alors, c'est quand même quelqu'un qui a été bien au-delà des limites peut-être qu'on lui imposait quand il était plus jeune.
Tout à fait. Puis il dit lui-même, en fait, quand il était jeune, il trouvait ça un petit peu dommage de jamais voir des gens qui ont le syndrome de Down à la télévision, oui, dans le cinéma, tout ça. Donc, il a décidé de remédier à la situation lui-même et il a fait un court-métrage d'animation qui s'appelle Free Bird. Et imaginez, François, son court-métrage est allé aux Oscars. Il a été nominé, rien de moins. Donc, il a prouvé, hors de tout doute, son pari que, oui, franchement,
et
très
talent.
Possible.
Tout à fait. Ben, on va voir aussi qu'est-ce qui va ressortir de cette conférence des États parties, parce que c'est une chose de signer la convention, mais c'est une autre chose de la mettre en pratique.
Oui, exactement.
Hein, voilà. On traverse l'Atlantique.
Oui. En fait, des paralysés retrouvent l'usage de leurs mains grâce à des électrodes pour retrouver de la mobilité. En fait, c'est en France. Des patients tétraplégiques ont retrouvé l'usage de leurs mains grâce à des petites électrodes implantées dans leurs bras. Donc, en fait, c'est sûr que c'est des personnes qui avaient la possibilité, là. Donc, des lésions cervicales survenues chez une personne en particulier, Maxime, a provoqué une interruption de la commande entre le cerveau
et les
muscles. Voilà, sous la lésion. Donc, ces muscles ne sont pas paralysés. Ils sont simplement privés d'une commande volontaire qui n'existe plus et qui va être qui va être produite via un artifice qu'est la stimulation électrique. En fait, l'appareil qu'ils ont posé finalement.
C'est l'œuvre du centre de rééducation Bouffard-Vercelli, qui est à Perpignan.
Voilà. Hein?
Alors, c'est pas dans la grande région parisienne. Perpignan, on le sait, c'est plutôt en Occitanie.
C'est
dans le sud-ouest de la France. Alors, donc, c'est grâce à ces implants, le docteur Georges Fatal, qui est médecin-chef au Centre de la rééducation fonctionnelle de Bouffard-Vercelli, de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention. C'est long, là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un espoir. Et de la façon que ça fonctionne, je crois comprendre, c'est par un mouvement de l'épaule qu'on stimule les muscles de la main.
Oui. En fait, on met des électrodes directement sur les nerfs. C'est ce qui fait que la commande peut refonctionner par le muscle. Mais il faut faire le lien entre les deux. Donc, ce qui importe, selon le docteur Charles Fatal, n'est pas de retrouver leurs mains d'avant. Mais c'est parce que ça serait impossible, malheureusement. En revanche, il est important de retrouver une main utile et fonctionnelle qui permet un geste finalisé là, dans le mouvement.
Et on ne sera pas surpris que ça arrive à Perpignan, parce que vous savez que Perpignan est le centre de l'univers.
Ah!
Oui, mais le peintre surréaliste Salvador Dali, en 1965, avait créé une immense œuvre qui s'appelait « La gare de Perpignan ». Décrété que Perpignan était en fait, la gare de Perpignan était en fait le centre de l'univers, et il exigeait que toutes ses toiles soient exportées à partir de Perpignan.
Ah, c'est
oui, tout à fait. Et encore aujourd'hui, à la gare de Perpignan, il y a une magnifique murale de Salvador Dali. Voilà.
On y passera,
puis tout à fait, on ira l'admirer.
En attendant, je vous invite à venir faire un petit tour au Maroc.
Ah, oui.
Oui, parce que le transport aérien, quelque chose d'extrêmement nouveau, facilitation de la mobilité des personnes en situation de handicap. En fait, il y a eu un décret publié le 25 mai dernier.
D'accord.
Le gouvernement a fixé de nouvelles normes facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap au niveau des aéroports marocains. Pardon. Alors, en vertu de cette réglementation, des obligations sont édictées à l'intention des compagnies aériennes et des autorités aéroportaires pour faciliter la mobilité des passagers en situation d'handicap ou à mobilité réduite qui voyagent par avion depuis le Maroc ou qui arrivent
au Maroc,
et
oui.
qui se rendent, en fait, ou qui transitent même au Maroc. De la réservation jusqu'à la sortie de l'aéroport, cette catégorie de passagers doit être prise en charge de bout en bout sans aucun frais supplémentaire. J'avoue que j'applaudis. Hein?
Ben
personnellement,
oui,
je trouve
fait,
ça absolument
exactement.
Fabuleux.
Et on n'a pas le droit de refuser à un passager handicapé ou à mobilité réduite l'accès à bord.
Absolument.
Hein? Bon, ben,
absolument.
En fait, on se demande toujours, doit-on applaudir ou enfin dire, bon, mais ben, enfin,
enfin,
parce
oui,
que c'est juste normal.
Hein? Enfin!
Il faut en fait se réjouir de cette normalisation des choses, mais puis en même temps, à chaque fois qu'on se dit, pourquoi fallait-il passer par un décret pour faire quelque chose? Mais si ça fait bouger les choses, voilà.
Voilà.
En parlant de faire bouger les choses.
Oui, en fait, là, on se retrouve en Afrique, au Congo, où est-ce que les femmes et les handicapés ainsi que... en fait, c'est une femme qui est handicapée et candidate à la présidentielle. Donc, on parle de Hortense Kavo-Maliro, 43 ans, qui craint ni les défis ni la concurrence, qui se présente, en fait, elle a annoncé cette semaine sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Donc, il faut savoir que ce n'est pas Jojo là-bas, il se passe beaucoup de choses, hein, on le sait, au Congo. Et... le président est là depuis longtemps, donc elle s'attaque quand même à une grosse pointure pour pouvoir prendre sa place, parce oui. qu'elle dit qu'elle a toujours milité pour porter la voix des sans-voix, pour défendre les droits des personnes handicapées, pour la paix, pour l'inclusion. Donc, pour elle, c'est juste une extension de sa vocation.
De tout son, toute sa
son
vie militante.
Parcours. Oui, oui, voilà. Donc, on dit que la République du Congo est un scandale géologique, tant ses sous-sols sont riches, mais les Congolais ont une vie misérable. Donc, c'est tout ça qu'elle aimerait pouvoir changer. Il y a une révolte en elle. Et à partir de ça, elle a décidé que son handicap moteur et ses béquilles ne l'empêcheraient pas de foncer. Bon. En tant que femme, en tant que patriote, en tant que personne courageuse, ambitieuse, elle dit qu'elle pense qu'elle a une compétence à offrir. Voilà.
Bon, ben on espère que sa voix soit entendue. Hein,
tout à fait. Au
scrutin de décembre prochain, on va suivre ça de près, tout à fait. Et que ça puisse créer une vague, hein? un effet d'entraînement.
On lui souhaite. Le
exact.
Congo en a besoin.
toujours en Afrique.
Toujours en Afrique. En fait, le forum des ONG est préoccupé par l'exposition des enfants au contenu inapproprié.
Oh, oh. Oui, ben ça,
donc, les réseaux sociaux, c'est ça. Là. Il y a un petit problème ici. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi dernier, 15 juin, la veille de la célébration de la Journée de l'enfant africain, le Forum des ONG, par le biais de son président Kwaku Osei, se dit préoccupé de l'utilisation fréquente des technologies numériques par les enfants, notamment les réseaux sociaux. Et il s'explique, il dit que cet usage expose les enfants au contenu inapproprié sur les réseaux sociaux et peut entraîner des changements de comportement avec des conséquences directes. Et là, on parle d'isolement social et familial de l'enfant qui est dû à l'incitation à rester devant un écran et à visionner une succession incontrôlée de programmes et
oui.
de toutes sortes de trucs, on le sait, un facteur de trouble de comportement, entre autres des émotions trop intenses, incontrôlées, une difficulté à gérer des traumatismes et la diminution de l'empathie. Ce n'est pas rien quand même, hein? Mais aussi et surtout le décrochage scolaire, la prise de poids et les troubles de langage.
Oh, ça fait beaucoup. On parle
ouais,
de perturbations du sommeil, de problèmes de la vue, oui. Bon, on a déjà parlé du fait qu'il ne fallait pas mettre un enfant de moins de 2 ans devant un écran. Là, c'est pas très bon. Mais il y a malheureusement, ça c'est une situation qui est dénoncée en Côte d'Ivoire, mais partout, on sait que les parents, oui, être parent, c'est difficile, nous en convenons, mais souvent, comme façon de donner presque un hochet ou une sucette technologique,
voilà.
là, on plante l'enfant devant un écran, puis là, ça le captive pendant des heures, mais c'est pas nécessairement pour son bien.
Non, c'est ça, il faut être conscient de tout ça. En fait, le forum en question, lui, demande que Les directions d'entreprises opérant dans le secteur numérique adoptent des mesures de sorte que celles-ci se conforment à leurs obligations vis-à-vis des enfants. Donc, c'est une demande...
Qu'une société de distribution numérique veuille gérer les enfants, c'est une chose, mais ça part du parent aussi qui
oui,
va simplement prendre le téléphone intelligent des mains de l'enfant puis va dire, on va aller jouer dehors.
Alors, ouais,
évidemment, ça demande un investissement de la part du parent, là. Ouais. Et ça, c'est sûr que c'est pas toujours difficile, mais je dirais les conséquences navrantes de toute cette exposition, un, aux écrans à cause de la lumière bleue, deux, au contenu des médias ou des sociaux ou quoi que ce soit qu'on peut voir défiler un après l'autre, puis l'enfant n'est pas toujours conscient de ce qui se passe devant lui, bien, tout ça, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire.
Non, effectivement, en fait, c'est partout, comme vous dites. D'ailleurs, à Mayenne, en France, dans la région de Mayenne, à Laval, j'ai trouvé
Laval,
ça.
Oui.
Ça
Laval,
m'a fait sourire.
Oui, c'est ça. Hein, il y a un Laval ici, hein, ils en ont un, eux autres aussi.
Donc, ils ont fait un constat similaire, pardon, avec plusieurs des enseignants dans les écoles. Et la ville de Laval a lancé un programme éducatif pour lutter justement contre les troubles du langage chez les enfants issus de familles étrangères et en situation de précarité. Donc, on a remarqué que les derniers chiffres sont alarmants. Selon la Santé publique de France, 4 à 6 % des enfants français présentent des troubles primaires du langage non liés à une pathologie.
Pathologie.
De pathologie.
Oui. La pathologie, ça, c'est uberois. Hein? Ça, on parle de... on est rendu Alfred Jarry, c'est autre chose.
Hein? On est ailleurs.
C'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit donc, mais c'est important, parce que ça veut dire que... Et est-ce qu'on retrace ces troubles primaires du langage à l'usage d'écran ou comment... Qu'est-ce qui en serait la source?
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les troubles sont en partie dus à la place des écrans, effectivement, qui est devenue trop importante dans le quotidien des enfants, notamment chez les moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Il faut y penser, là, quand même. Selon une étude de ELF, qui est un regroupement, qui a publié en avril 2023, un enfant de 2 ans, il passe en moyenne 56 minutes par jour, qui est déjà trop, en fait.
Oui.
Mais parmi les autres sources identifiées, il y a aussi la problématique du multilinguisme dans les familles en situation précaire.
Ah.
Ce qui arrive, c'est que trop souvent, étonnamment, les gens qui arrivent d'un autre pays qui immigrent en France, on a constaté qu'on n'apprenait pas le langage de la famille, mais on essayait tout de suite de les amener à parler français. Néanmoins, comme les parents ne sont pas nécessairement capables de le faire, ça fait en sorte que l'enfant est comme en deux choses.
Oui, il est coincé un peu.
Il est coincé. Mmh.
D'accord.
On a remarqué que les enfants qui arrivent avec en âge d'apprendre la lecture rencontrent des difficultés d'articulation et des problèmes de syntaxe.
Donc, ça, c'est en partie lié à, je dirais, à la mouvance des parents, le fait que des gens arrivent d'une autre culture. Mais ça, ça n'a pas de rapport avec les écrans.
Non.
Mais si en plus, on leur met un écran...
Voilà, on additionne...
Peut-être qu'il va être entendu par l'enfant sur l'écran. Ça peut aussi bien être en anglais. Alors là, ça va créer vraiment beaucoup, beaucoup de confusion.
Donc,
Il y a une problématique qui a été identifiée à Laval. Laval, que vous serez heureuse d'apprendre que c'est une ville de l'ouest de la France, chef-lieu du département de la Mayenne, comme vous le disiez,
ouais.
À 300 km à l'ouest de Paris, 49 617 habitants au dernier recensement. Hein? C'est entre la Bretagne, l'Anjou et la Normandie.
Donc voilà.
Voilà. Et entre le lac des Deux-Montagnes et Repentigny.
Repentigny?
Oui, entre le lac des Deux-Montagnes et Repentigny, juste au nord de la rivière des Mille-Îles, un petit peu avant la Couronne Nord.
D'accord. OK. En fait, l'objectif de l'organisme qui a constaté tout ça, c'est d'inciter les parents à recréer des interactions et stimuler le langage chez les enfants par leur langue d'origine. Pour ensuite faciliter l'apprentissage du français.
Oh, OK.
Donc, on passe à la première étape qui est finalement apprendre le langage, puis ensuite on apprendra le français.
Après ça, on en apprendra un second.
C'est ça.
Et non pas mélanger les syntaxes.
Ce qui va être plus facile pour les enfants.
En parlant de langue, la langue des signes française maintenant trouve une nouvelle application dans des soins.
Oui, en fait, c'est un ostéopathe qui propose des séances en langue des signes dans l'Hérault, l'Hérault étant une région de Montpellier. Donc, le monsieur en question a décidé d'apprendre la langue des signes et il propose des séances avec la langue des signes. Et c'est, il a constaté, en fait, que les personnes sourdes et malentendantes peuvent souvent se sentir exclues dans leur quotidien parce que, notamment lorsqu'ils vont à un rendez-vous médical ou de soins, trop souvent, on ne se comprend pas.
Oui, puis c'est surtout quand on parle de thérapie physique, ainsi de suite, il faut être capable d'être très attentif précis, à son corps puis d'expliquer ouais. là où on a mal, quels sont nos besoins.
Donc, lui, c'est Marc Spack qui s'est formé pendant des mois pour maîtriser la langue LSF. Et il donne, en fait, des séances pour tous ceux qui en ont besoin. Puis malheureusement, il a constaté qu'il y a des demandes qui viennent partout. Lui, il se déplace, il part à vélo, puis il va voir carrément ses patients.
C'est mais il peut pas être partout. Hein. Il peut
non,
pas
voilà.
être au feu et au moulin.
Voilà. Donc, il a constaté qu'il y avait des demandes partout en France, mais naturellement, il ne peut pas
on,
se rendre.
On espère que ce soit un geste qui se répète.
Hein? Oui, voilà. Tout à fait. On encourage.
On encourage. Après la pause, on revient chez nous. Voilà, I got rhythm. Hein? Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Sonny Stitt, que je connaissais peu, je dois dire. Je connaissais la chanson, mais peu. Merci, M. Tessier, encore une fois. Voilà, on se retrouve dans la magnifique région de Montmagny.
De Montmagny. Oui, en fait, le transport collectif s'installe dans le sud de la MRC de Montmagny. Un transport collectif est adapté. De la MRC de Montmagny lance cette semaine un projet pilote rendant le transport collectif disponible pour tous les citoyens du sud de la MRC de Montmagny. En fait, c'est vraiment particulièrement pour que les gens puissent se déplacer entre les municipalités par autobus pour la somme de 5 $. Le projet inclut même des volets aide alimentaire et activité intergénérationnelle. Oh, en fait, le projet pilote est financé en bonne partie par le programme d'aide au transport collectif régional, la municipalité Amie des aînés, MADA, du gouvernement du Québec. Une subvention de 95 000 $ a été octroyée pour cette initiative. Donc, c'est très important. On peut ici faire le transport des gens qui vont dans des rendez-vous médicaux, en fait, n'importe où finalement. L'important est que on doit d'abord contacter le transporteur qui est en fait, je pense, la compagnie La Pointe qui va D'accord. faire le transport.
Ça, c'est un moment. Et parce que la région de Montmagny, il ne faut pas croire que c'est uniquement la bande de terre qui longe le fleuve. Hein. Ça va assez loin à l'intérieur des terres jusqu'à la frontière du Maine, là, jusqu'à au magnifique village de Sainte-Lucie-de-Beauregard.
De Beauregard.
Oui, madame, Sainte-Lucie de Beauregard.
Je connais Sainte-Luce, mais pas Sainte-Lucie.
Non, Sainte-Lucie de Beauregard, ça, c'est pas loin du Maine. Quoi qu'il en soit, ben bravo pour Montmagny. Hein?
Oui, donc c'est les autobus La Pointe. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux aînés de se déplacer à leur goût, parce que souvent, s'ils n'ont pas leurs enfants disponibles pour les aider,
ben,
malheureusement,
ils sont
limités.
Coincés. Oui, puis voilà. C'est une région quand même qui n'est pas très densément peuplée.
Oui.
Donc, ça, c'est important.
C'est un grand apport. Il faut téléphoner, prendre rendez-vous. Et puis, il n'y a aucun problème. On va aller vous chercher.
Bon.
C'est merveilleux. Hein?
Aucun problème. Voilà un engagement qui pourrait nous suivre. Charny.
Oui.
Rive-sud du Saint-Laurent, toujours. Hein, on se rapproche un peu en amont.
C'est l'inauguration d'un plateau extérieur de réadaptation. En fait, la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches et le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, toujours, ont inauguré officiellement mercredi dernier un plateau extérieur de réadaptation. La première cour extérieure de réadaptation au Québec. C'est fort intéressant.
Oui, c'est grand. Là. On parle de 10 000 mètres carrés.
10 000 mètres carrés. Donc, c'est aménagé au centre de réadaptation en question de déficience physique du secteur de Charny à Lévis.
À Lévis.
Qui va beaucoup servir, j'ose l'espérer.
Parce qu'on parle quand même d'une surface où, en fait, on essaie, c'est une reproduction de la vraie vie. C'est une surface, une cour qui est aménagée avec des sentiers en gravier, en sable, en asphalte. Il y a des pentes, des trottoirs. Il y a du gazon. Il y a toutes sortes de... du mobilier urbain adapté, ainsi de suite. Et il y a toutes sortes d'objets qui reproduisent un peu
la vie de tous les jours
dans un quartier, dans une ville. Et en même temps, ben, ça permet à des gens qui sont soit en situation de perte de mobilité, en une déficience visuelle, de se pratiquer dans un endroit qui est clos et sécuritaire, mais en même temps, à affronter soit des surfaces... si on parle de quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou des objets qui peuvent apparaître dans le mobilier urbain, je pense entre autres aux personnes qui ont un handicap visuel. Mais là, ça permet tout ça, de faire ça dehors, dans des conditions réelles, au centre de réadaptation à Lévis. Bien là, bravo, on espère que d'autres régions du Québec puissent aussi s'en doter.
S'en inspirer, n'est-ce pas?
Exact.
Oui, voilà. Donc, maintenant, dans le quartier Ville-Marie, l'organisme WECAN présente Braille, l'art au-delà du visuel. C'est une exposition d'art faite de ponts entre le public, finalement, qui est voyant, et les non-voyants, à travers l'intégration du braille et autres éléments tactiles. Vous vous rappelez, François, on en a déjà parlé, c'est des expositions qu'on voyait plutôt en Europe, mais maintenant on sait ici.
Cette exposition-là est itinérante, hein,
ouais.
Car elle avait été déjà présentée à la Maison de la culture Claude Léveillé en septembre dernier.
Ah,
et maintenant, elle est à la Maison de la culture Janine Souteau, dans Ville-Marie, tout l'été, à partir du 20 juin jusqu'au 15 août.
Très accessible, car c'est à côté du métro Frontenac.
C'est donc, tout juste à côté, c'est comme... Juste en arrière.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Il faut le dire. Donc, fort intéressant. Il faut aller voir ça.
Il s'agit donc d'une initiative d'artistes afro-descendants qui ont été jumelés à des artistes non-voyants dans le but de créer des œuvres intégrant du braille spécifiquement conçues pour être appréciés par des personnes ayant peu d'occasion d'interagir avec des œuvres visuelles. Alors, on va certainement aller faire un tour. On a ça pendant tout l'été.
Ouais.
La semaine dernière, c'était la journée officielle de sensibilisation à la maltraitance pour les personnes âgées.
Oui.
Il y a eu quelque chose, je pense, dans la région de Gatineau. Il y en a eu aussi un peu partout au Québec, mais entre autres, il y a encore un événement demain.
Oui, voilà. Le 20 juin, de midi à 13 heures, on a une rencontre pour mieux comprendre la vulnérabilité dans la loi de lutte contre la maltraitance au-delà du signalement. Donc,
c'est dans la région de l'Outaouais?
C'est dans la région d'Outaouais. Je crois, par contre, qu'on peut visionner tout ça par Zoom.
Ouh.
Il faudra aller faire un petit tour sur le site Internet du gouvernement du Québec.
Parfait.
Donc, sur leur page.
Tout à fait, parce que si vous allez faire une recherche Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, vous allez tout trouver ça. Entre autres, il y a des capsules qui ont été produites qui couvrent des sujets pertinents comme la réticence à demander de l'aide, la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance financière et le repérage des situations de maltraitance. Alors, tout ça va permettre une plus grande... sensibilisation du public à cette situation-là.
Tout
voilà.
À fait. Et avant de se quitter, François, je voulais souligner, en fait, la série À propos d'Antoine, écrite par Kathleen Rouleau,
oui,
qui a fait
oui.
l'objet d'une interview ici.
Au Gémeaux.
Voilà, le rôle d'Antoine. Antoine Parent-Bédard, en fait, qui joue son propre rôle, est nominé.
Et nominé au Gémeaux. Ben là, on
c'est
va suivre ça, on espère. Ben oui, ça fait plaisir. Esther, merci beaucoup pour toute la saison. Mathieu
merci
Tessier derrière sa vitre et avec les doigts sur le clavier. Claire Guérin à la recherche et on vous dit à septembre!